j'ai pas la musique, mais je m'en jaille quand même. Et Dals, du coup, tu reviens pour nous jouer un bon tour cette fois avec des Exactement. Découvertes littéraires comme tu as l'habitude de le faire. Et on ne sait jamais quelle est. Bah, qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Ça peut être un roman, ça peut être une BD, ça peut être un manga, ça peut être tellement de choses. Dis-nous tout, fais-nous rêver.
Eh bien, je l'ai amené avec moi, du coup. Je vais vous parler d'un grand classique de la BD, puisqu'en ce moment, je me suis focalisé, du coup, sur quelques-uns de mes gros coups de cœur depuis quelques chroniques. Et je vais vous parler d'un gros classique, mais je vais vous parler surtout de son édition intégrale. C'est pour ça que j'en profite pour l'évoquer. Et je vais bien sûr parler de Oko. Alors, peut-être que certains connaissent déjà, peut-être que d'autres ne connaissent pas. On est sur une version intégrale. Je vais juste m'arrêter deux secondes sur l'édition,
qui
est incroyablement magnifique. C'est un
énorme
pavé. Elle
ne rentre pas dans le cadre, tellement elle est immense.
Elle ne rentre pas dans le cadre, tellement elle est immense. Pour vous dire, je vais quand même l'ouvrir parce qu'on est vraiment sur une pépite d'édition, quoi. Genre, c'est incroyablement bien fait. Je peux pas dire mieux. C'est
mais un peu plus devant toi, parce que comme la caméra cadrée, vas-y, ouais. Vas-y. Plus devant, en face, voilà.
C'est édité par qui ?
Vous aimez Oko, c'est absolument incroyable.
C'est édité par qui, Dals ?
Alors, du coup, l'édition.
C'est un dictionnaire ? C'est à la rousse ! C'est quoi cette épaisseur ?
Du coup, Oko est. Je vais y arriver. Est édité par Delcourt depuis le début.
Delcourt.
Ah oui.
Voilà. Et c'est 10 tomes, Oko. Réunis en fait en différents cycles, du coup, c'est en 5 cycles de 2 tomes.
D'accord.
Et les 10 tomes tiennent dans ce pavé.
Mais il est sublime. Enfin, moi, on voit.
Ah, il est sublime.
Pour ceux qui sont sur le podcast audio, Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast, via aussi sur YouTube la version vidéo, forcément, si vous voulez voir un peu ce qu'on présente. Donc, on a le podcast audio et vidéo qui découle de l'émission. Et pareil, pour ceux qui sont en direct, n'hésitez pas, si vous voulez passer à quelqu'un le podcast, à partager quand ce sera diffusé d'ici la prochaine émission. Mais c'est. Les pages sont belles. Alors, désolé pour ceux qui écoutent en audio, mais allez sur la version YouTube si vous voulez voir un peu.
Voilà.
Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait. Alors, je pense que le lecteur qui est en toi et la lectrice aussi, qui est ta femme, ne va pas aimer ce que je vais dire, mais. Enfin, ou à moitié. C'est-à-dire que c'est tellement beau que moi, je l'achèterais, mais pas pour le lire. Mais c'est un bel objet.
Alors, c'est un très bel objet. Donc, pour ceux qui n'auraient peut-être pas éventuellement le visuel, on est sur un coffret rouge tout à fait dans la thématique du bouquin, avec une reliure magnifique en tissu qui est très très belle, le petit marque-page qui va avec. On est vraiment sur une édition magnifique, les couleurs sont impressionnantes à l'intérieur. C'est vraiment à l'ancienne, c'est très très beau. Donc voilà, ça c'était la parenthèse sur l'édition intégrale, mais du coup parlons quand même un petit peu de l'œuvre que vous allez trouver à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas que l'objet lui-même, même s'il est effectivement magnifique.
Moi j'ai vu l'objet, c'est bon, je vous laisse pour l'œuvre.
C'est bon. Donc Oko, c'est un classique maintenant de la bande dessinée, je pense qu'on est dans ces 20 dernières années sur un monument maintenant, mais j'avais envie de revenir un petit peu dessus, parce qu'il est quand même un monument hyper intéressant que tout le monde ne connaît pas, surtout si on n'est pas féru de bande dessinée. Donc je pense que c'est hyper important. L'auteur, Hub, alors c'est un pseudo, hein, je vous rassure, il s'appelle en fait Humbert Chabuel, si je ne dis pas de bêtises, du coup qui est un auteur français, hein, malgré que l'œuvre va se passer au Japon, on est bien sur une œuvre intégralement française. Il est également le dessinateur, l'encreur, il fait tout. De A à Z, c'est son œuvre.
D'accord.
Donc on est sur un. Voilà. Et vous le connaissez sûrement pour autre chose. Il est designer sur le film du Cinquième Élément, au début également.
D'accord.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui vient aussi du cinéma, et c'est un très très gros amateur de jeux de rôle. Et alors ça a son importance dans la suite de mon histoire. Il va falloir le retenir. Donc c'est un gros gros fan de jeux de rôle. Et il va créer une œuvre qui est un véritable univers, comme il aime parcourir dans les jeux de rôle. Et il avait un faible énorme pour la Légende des Cinq Anneaux, cet auteur. Et donc, si vous ne connaissez pas le jeu de rôle de la Légende des Cinq Anneaux, c'est du médiéval fantastique japonais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer Oko une œuvre de médiéval fantastique japonais dans laquelle il va faire évoluer ses personnages dans un univers extrêmement dense. Et ça, c'est vraiment la force de Hub, c'est d'avoir construit dans Oko un univers cohérent, dense, passionnant, qu'il y a autour des personnages. Limite, on pourrait mettre de côté l'histoire qui en elle-même est super, on va y revenir après, mais limite, rien que voir les personnages parcourir l'univers, c'est déjà... oufissime, on est content, déjà. On n'aurait même pas besoin de l'histoire par-dessus, mais qui va évidemment rajouter beaucoup, parce qu'elle aussi est très intéressante.
Il y a cette planche qu'on voit, alors à chaque fois, j'essaie de trouver des parallèles, et ça me fait penser un peu au niveau de dessin, tu vas me dire, mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes, mais tu t'as pas dormi cette nuit. Moi, visuellement, ça me fait penser, au niveau des couleurs hautes, à l'Enfeust.
Alors, Oui.
Dans certains. Non, mais je sais pas, tu vois, par exemple, on voit les. Encore une fois, go YouTube pour ceux qui sont sur le podcast. Les personnes qui sont sur le balcon, alors, là, donc qu'on voit un peu, entre guillemets, de loin, là, sur la planche, là. Ce côté trait de personnage, ça me fait penser à certains plans de l'Enfeust. Alors, j'ai pas vu tout l'Enfeust de 3, cette BD.
Alors, effectivement, il y a une. Il a été formé dans la même époque que Landfest, Sillage, etc. Donc il y a un trait un peu commun, mais Hub se démarque fortement des autres œuvres. Il est plus fin son trait et il est plus investi, oui, dans sa bande dessinée. Parce qu'en fait, on va ici retrouver une ambiance graphique puissante, parce qu'ancrée dans le Japon. Donc même s'il dessine avec ce trait très caractéristique de la BD franco-belge, notamment voilà, de l'époque très Landfest, très Sillage et ses autres œuvres.
Ben, fantasy, quoi. Un peu.
Fantasy et jeune, en fait. Hein, c'est des œuvres qui s'adressent essentiellement aux jeunes. Ici, il va aussi les mélanger, si je peux dire, avec des inspirations classiques japonaises. Donc, on retrouve du travail un peu d'estampe dans les visages, dans les postures, dans l'exagération de certains corps ou de certaines positions, dans les thématiques couleurs ou les fonds de certaines scènes. Et il ne s'arrête pas là. Il va également faire du clin d'œil beaucoup au cinéma, puisqu'on en parlait, il en vient. Et au jeu de rôle. Donc vous allez avoir la planche que présente l'O0 juste avant, si tu peux revenir sur la 2. Et que tu peux centrer un petit peu sur la planche. Vous voyez ce soleil couchant à l'arrière avec l'arbre devant. On voit un arbre. Alors c'est un arbre taille réelle, hein, quand on le compare à la maison. Mais en fait, il a la tête d'un bonsaï, cet arbre. Regardez-le un peu de loin. Et
oui,
ce soleil couchant à l'arrière, c'est presque un Far West. On est presque dans Tigre et Dragon. On est sur un Japon, mais un Japon fantasmé à l'européenne, de temps en temps. Mmh. Et par contre, la maison, elle, est dessinée dans un style beaucoup plus emprunt du Japon traditionnel. Donc, il a un mélange de genres qui est hyper intéressant. Le visage aussi de la femme dessous est très typique des estampes. Donc, on a un mélange de genres qui est très, très intéressant et qu'il a beaucoup travaillé dans son œuvre.
Et quand tu dis mélange, ce qui est bien, c'est qu'on va faire défiler différentes planches, et moi je les vois déjà toutes, hein, ça me permet aussi de poser des questions, c'est que là c'est surtout cette teinte-là, cette couleur-là qui m'a fait penser à l'Enfeust, qui a des couleurs très rouges en général, mais il y a vraiment, on passe pas du tout au tout, mais moi je vois certaines planches, et des fois c'est vraiment, c'est pas comme si c'était une autre BD, mais t'as vraiment des fois presque deux salles, deux ambiances, on te fait voyager, quoi.
Alors, exactement, et c'est ça, je vais y venir, du coup, c'est une des grandes, grandes forces, tu as raison, de l'œuvre, c'est qu'elle se déroule déjà en, on a dit, 5 cycles de 2 tomes. Les 5 cycles font référence au Gorin no Sho, donc au traité des 5 roues, une œuvre classique japonaise, et qui va être les 5 éléments, si on peut dire, au Japon, qui sont pas tout à fait les mêmes que chez nous, et qui se terminent par le vide, du coup. Et qui sont également présents, et qui sont les 5 anneaux de la légende des 5 anneaux, dont l'auteur est si fan que ça. Et donc au cours de ces 5 cycles, il va explorer également 5 thématiques graphiques un petit peu différentes, et des ambiances un petit peu différentes. Mais au cours même d'un même cycle, on est quand même sur des héros qui voyagent énormément dans un univers. C'est un petit peu ce qui m'a marqué au tout début de la lecture, et c'est ce que je vous disais. Outre l'histoire, on pourrait juste être ce groupe de héros qui voyagent dans l'univers, et l'univers est tellement changeant, tellement dense. Les villes, les montagnes, on passe sur des villes qui sont sur l'eau, on va aller au bord de rivières, on va aller dans des marécages. Et le graphisme s'adapte. Et c'est beau, c'est pas les mêmes thématiques de couleurs, c'est pas traité de la même façon. Ne serait-ce que les couvertures sont magnifiques, si tu reprends l'image 1, l'O0 qui est absolument fantastique, c'est la couverture peut-être la plus emblématique, et puisque c'est la première, celle du cycle de l'eau, tome 1, du coup, qui présente les 3 personnages principaux, il y en a un quatrième, on va dire, mais j'y viens après. Et voilà, là tout de suite, on se dit, le cycle de l'eau, paf, on a déjà la thématique couleur de l'eau avec la lune qui est présente, qui est donc très associée à l'eau en règle générale, hein, puisque phénomène de marée, tout ça, voilà. Et si tu passes sur la slide 2, qu'est-ce qu'on a ? Une maison sur pilotis qui ouvre la scène avec un arbre posé au milieu de l'eau. Chaque cycle se reflète, l'élément est reflété dans les décors, dans le design, etc. Et c'est vraiment superbe. Rien qu'à ce niveau-là, il y a une énorme richesse dans l'œuvre.
Et l'ensemble de l'œuvre et de tous ces tomes, ça s'étale sur combien d'années ?
La sortie ? C'est assez obscur. Tu veux dire la
pas,
sortie
pas le scénario.
Ah, pas le scénario. Alors c'est une très bonne question, combien de temps il a mis à faire les 10 tomes. Je sais que c'est publié depuis 2005 chez Delcourt, et je pense qu'il a mis à peu près 10 ans à les faire. Le dernier, c'est, ben, le dernier, c'est 2015. Oui, il a mis parfaitement 10 ans à les faire.
D'accord. Je sais plus si t'as le dit, mais il a tout fait ou
Oui, tout. Tout à fait.
Scénario, tout.
Coloration, de brut.
Ah oui, c'est un vénère, voilà, alors, le gars.
Il a tout fait. Après, les couleurs, il est rejoint sur certains tomes par Stéphane Pelayo. Et sur les derniers tomes, il est rejoint par Lee, donc, qui sont des assistants coloristes.
Souvent, t'as trois boulots, quoi. T'as écrire, dessiner et faire la colorisation. Quoi. C'est vraiment
mais
trois
lui,
boulots.
Il est les trois. Il a juste des assistants coloristes sur la.
Parce que ça prend. C'est très long s'il voulait pas mettre 10 ans de plus. Voilà. Mais il aurait pu faire tout seul, quoi. C'est juste que c'est long, quoi.
Exactement. Et c'est lui qui, donc, maîtrise toute l'œuvre, puisqu'il se charge de lui-même de toute la patte initiale. Oui. Donc, ça, on a pas mal parlé on va dire du côté graphique de l'œuvre, ce qui est quand même très important, mais il y a quand même une histoire à cette œuvre. Je vais peut-être vous en parler un petit peu.
Elle est nulle, voilà, ensuite.
Donc c'est quand même là un petit peu l'intérêt de Oko. Oko, c'est quoi ? C'est un roman initiatique, enfin c'est une histoire initiatique, toute bête. C'est un ronin du nom de Oko, donc un ronin, un samouraï sans maître, qui va se constituer autour de lui une petite équipée, et ensemble, ils vont être des chasseurs de démons, globalement. Et ils vont donc arpenter les terres de l'Empire, qui s'appelle Pajan, et qui est un Japon fantastique un peu sublimé. Et ils vont chasser les démons. Donc, à chaque fois, il va y avoir un côté sous-petite histoire, à chaque cas, si on veut, un peu à la façon d'une série policière. Donc, ils arrivent dans un lieu, il y a un démon à chasser, même s'ils ne le savent pas toujours dès le début, mais ça va, des indices vont leur mettre la puce à l'oreille. Il va y avoir un côté enquête, globalement, sur qui est le démon, pourquoi, quel type de démon, qu'est-ce qu'il fait là, etc.
C'est pas on se tape dessus et point barre, quoi. Voilà, c'est pas que
c'est,
ça.
C'est ça. Et il va y avoir la neutralisation du démon qui ne se passe pas toujours par un combat. Donc ça revient à chaque fois. Alors évidemment, il se passe énormément d'autres choses, il y a des fils rouges derrière, ça c'est des petites historettes, on va dire, qui sont par-dessus. Et en fait, on s'aperçoit très vite qu'elles sont liées dans un énorme tout, que je vais pas vous spoiler bien sûr, mais qui fait tout l'intérêt et la force de l'œuvre. Et sa gradation en puissance est énorme. C'est-à-dire qu'on comparte des premiers tomes qui semblent vraiment des histoires un peu détachées, on comprend pas vraiment où est-ce qu'on veut en venir, mais on a plaisir à suivre ce petit groupe et à suivre les petites histoires. Et dès le deuxième cycle, on gagne en profondeur, on commence à comprendre pourquoi tout est lié, etc., jusqu'à la conclusion fantastique du dernier cycle, qui, d'ailleurs, le dernier tome est quasiment un retour en arrière, puisqu'il se consacre uniquement à la jeunesse du personnage. Et en fait, en apprenant sa jeunesse, ça conclut intégralement la série parce qu'on comprend les 9 autres tomes en comprenant la jeunesse du personnage.
J'ai beaucoup d'œuvres qui font ça, qui te racontent le passé une fois que t'as vraiment bien vécu le présent, quoi.
Exactement.
Pour vraiment.
Donc c'est un récit le truc, quoi. Initiatique. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre parce qu'on parle de Oko, un ronin qui est à la tête d'un groupe de chasseurs de démons et tout. C'est un personnage très fort. Hein. C'est
dès le début, c'est déjà vénère. Mais,
voilà, il est déjà vénère. C'est pas un shonen, hein. On est très loin de ça. Par contre, en fait, on est dans un récit initiatique parce que c'est pas réellement Oko, le personnage principal de la série. Tout le monde en parle, l'œuvre porte son nom. C'est lui qu'on voit peut-être le plus dans les planches. Mais en fait, ce n'est pas lui, le personnage principal. C'est un jeune moine, Tiku, qui le suit. Et c'est le récit initiatique en fait de Tiku, réellement. C'est ça qui est l'œuvre d'Oko. En fait, c'est le jeune moine qui le suit et tout ce qu'il va apprendre au contact du groupe de chasseurs de démons qui est intéressant. Voilà. Alors son groupe est assez passionnant puisqu'il y a un moine plus vieux qui est un bonze un peu fantasque, grand amateur de saké, très alcoolique. Très désabusé pour un bonze. Vous voyez, il est croyant, mais
bonze alcoolique.
Il est désabusé de la vue, de la vie, quoi. Voilà. Il est accompagné de Noburo, qui est le fameux géant qu'on voit dans l'une des planches que vous montrez tout à l'heure, l'Ozero, qui est tout le temps masqué, tout le temps, d'un masque du coup de théâtre rouge, et qui est un énorme géant.
Ouais, ici, ouais.
Il est hyper fort, apparemment. Il meurt plusieurs fois et il meurt pas en fait. Donc il semble immortel sur le papier, voilà. Et il est entouré énormément de mystères, et il est à la solde totale d'Oko. Total. Jamais il le remet en question, rien. Donc il y a un petit peu une inconnue sur ce personnage-là aussi. Et enfin, il y a le jeune apprenti Tiku, donc qui en fait est le spectateur.
On dirait,
un peu,
Avatar, le maître de, le dernier maître de l'air, hein, quand même. Le petit moine.
Ouais, le petit moine, il y fait vachement penser. Donc Tiku, il joue vraiment le rôle du spectateur externalisé et naïf. Il arrive avec toute sa gentillesse, sa crédulité, etc.
C'est
face
un peu
au
le
monde.
Lecteur.
C'est un peu le lecteur, voilà. C'est un peu le lecteur qui viendrait de la BD gentille, mignonne, tu vois, standard, et qui est plongé dans l'univers d'Oko. Parce que Oko, au contraire de ce qu'on croit, c'est pas une BD jeune, hein, c'est une BD adulte. Hein.
Ouais, c'est ça, je me dis, le public, c'est quoi ? C'est, voilà. Oui, c'est à partir du lycée, quoi.
À partir du lycée. En fait, on a tendance à vouloir la lire avant, notamment à cause de son univers et à cause de sa patte graphique, qui laisse à penser que ça peut être accessible à des gens qui lisent du Landfest, ce genre de choses. Pas du tout, hein. C'est justement Tiku, c'est ce jeune lecteur qui vient d'avant et qui se retrouve confronté au monde plus réaliste, qui est celui du groupe de Noburo, donc Noshin et Oko. Et justement, la force de l'œuvre, c'est que Oko est un héros à l'ambiguïté incroyable. Et du coup, d'ailleurs, c'est pas vraiment le héros, mais c'est un personnage à l'ambiguïté incroyable. On le pense, le gentil, puissant, chasseur de démons, avec son groupe au début, et très vite, on se rend compte que il est très froid, il a un cœur de pierre, il chasse les démons, mais c'est pas toujours pour le bien de la personne, en fait. Il a l'air d'avoir une motivation très très personnelle et très intrinsèque pour le faire, mais c'est pas forcément pour aider les gens. Le personnage de Noburo doit être carrément sous contrôle, limite, parce que il est très bizarre.
D'accord.
Et du coup, il va se tisser autour d'Oko et de son groupe une ambiguïté énorme.
Là, c'est un groupe de héros.
C'est pas du tout un groupe de héros. Noshin, le bonze, est très désabusé de la vie. Donc, il prodigue des conseils un peu philosophiques, un peu religieux, mais au final, matiné par c'est la triste réalité. Oko n'avait pas le choix que de faire ça. Il fallait prendre le moindre mal.
Ouais.
Voilà, on est sur
vraiment des mercenaires plus que des héros, ouais. C'est vraiment
on est plus
sur
le groupe de mercenaires très hétéroclite et étonnamment très attachant. À suivre leur vie de très près, à la recherche des manifestations occultes ancrées très profondément.
Des manifestants, je peux dire là.
Dans des manifestations occultes très très ancrées dans le folklore japonais, eh bien ils deviennent hyper attachants, mais hyper ambigus aussi. À tel point que dans certains tomes, on se dit, ben au cost. C'est pas trop le gentil dans l'histoire, globalement.
C'est un peu
une figure de méchant, entre guillemets. Voilà. Mais là où d'autres anti-héros vont être plutôt pas doués ou maladroits,
Deadpool, c'est un peu anti-héros, tu vois, si je prends un exemple.
C'est ça. Ben là, on est vraiment dans le même style. On est dans le anti-héros très ambigu, limite méchant sur certains points.
Ouais, il y a des dégâts collatéraux, enfin du dégât collatéral, s'en fout, quoi. C'est tant pis, quoi.
Exactement. Bah d'ailleurs, Lou a switché sur peut-être la meilleure scène, donc où on voit Oko en train de manger avec un haut dignitaire, et on voit carrément un démon pendu au-dessus, la tête tranchée. Donc on est dans un univers sanglant. Hein. J'avais dit que c'était mature, mais
c'est ça. Il y a du
les
sang.
Les monstres sont bizarres aussi. Il y a des scènes limite glauques.
J'ai zoomé pour comprendre. J'ai l'impression qu'en effet. C'est un géant et qu'il a les luminaires qui sont accrochés à ses bras et que sa tête est coupée, qu'il y a du sang qui coule directement. Non ?
Oui, tout à fait.
Ah, c'est une déco, écoute.
C'est exactement ça.
Il y a des gens qui ont des têtes d'élan accrochées à leur mur. Hein, donc, écoute,
fabuleux.
Et la tête repose devant eux. Voilà. Et il y a des moments, en fait, on verra même que le démon, on le prend en pitié un peu, la créature. Il y a des fois, elles sont vraiment maléfiques et il y a d'autres fois. Elles font partie du folklore et c'est limite l'homme qui a provoqué leur apparition ou qui les ont manipulées. Mais c'est pas le démon la plus grande menace dans le lot. Et Oko va s'en débarrasser de manière nette, froide, sans aucun problème, sans état d'âme. Il se débarrassera des humains qui se mettront sur sa route de la même façon. Il n'y a pas de souci avec ça. Il fera des choix qui vont pas du tout en faveur du moindre mal. Donc c'est un personnage très très ambigu et dont la complexité va faire tout le sel de l'œuvre. Honnêtement.
Et de savoir c'est quoi son but, quoi. Enfin, voilà. Son but intérieur.
C'est que voilà, il y a une énorme tension scénaristique et dans les fils rouges. Mais qui est ce géant qui l'accompagne? Pourquoi il l'obéit? Pourquoi il semble immortel? Qui est ce bonze très désabusé, mais qui a des pouvoirs, qui a des connaissances un peu mystiques, qui arrive à capturer des démons? Et qui est ce Oko?
Tout tout ça, on finit par l'apprendre. C'est-à-dire quand t'as vraiment tout lu, tu sais tout. Où est-ce qu'il reste des zones vraiment d'ombre?
Quand tu as tout lu, tu sais la grande majorité. Il y a quelques points que l'auteur a décidé quand même de laisser volontairement à la libre interprétation un peu. Et en fait, a aussi la possibilité de théorie. Parce que du coup, plus tu relis l'œuvre, plus tu t'aperçois qu'il dissémine des détails progressivement. Quand tu connais déjà la fin. Non, c'est l'œuvre est finie. Voilà.
Okay, donc pour ça,
Il a fait des trucs connexes, des artworks, des trucs comme ça. Il avait dit pourtant, à l'époque, en 2016 ou 2017, quelques années après la fin du dernier tome, il avait laissé la porte ouverte à il pourrait y avoir de nouvelles aventures avec le personnage de Hoko. Mais ça n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. Donc,
une série Netflix.
Et donc, voilà. Pourquoi pas. Franchement, en adaptation,
J'étais en train de chercher quand tu disais donc le nom du bouquin n'est pas le héros. J'essayais de chercher à part Zelda. C'est pas le personnage qu'on incarne, mais c'est pourtant le nom. C'est le nom du jeu, mais c'est pas la personne qu'on incarne. J'ai pas trouvé vraiment le personnage principal, c'est pas le nom de l'œuvre. Tu prends Naruto, je prends des mangas. Naruto, c'est Naruto. Après One Piece, bon, y a pas de nom, mais où tu te dis, c'est un personnage à côté qui est vraiment le personnage principal. Et pas celui qu'on pense. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui me viennent en tête, enfin pas du tout d'ailleurs.
Je pense dans les mangas traditionnels, il y a Fairy Tail où on pense tous à Natsu en personnage principal, alors qu'en fait c'est celle qui a les clés.
C'est Lucie, ouais,
C'est Lucie qui est en réalité le vrai héros de l'histoire.
C'est ça. Bah, c'est un peu un entre-deux, mais un truc vraiment autant, parce que tel que tu nous l'as raconté, c'est vraiment. C'est vraiment plus le... Et pourtant, tu vois, tel que, tu vois, quand tu nous as parlé de l'histoire, t'as quand même mis vraiment de côté... tu nous as presque rien dit sur le petit moine, alors que c'est lui le vrai personnage principal, et tu nous as beaucoup plus parlé de celui qui ne l'est pas. Donc même peut-être à travers toi, quand t'as écrit ton texte, t'es même aussi influencé sur ce côté un peu trouble de qui est vraiment le personnage.
Tu peux pas nous le spoil.
Voilà, je peux pas vous le spoil. Exactement. Ouais, parce qu'en fait, Tiku, c'est un jeune pêcheur au début qui se trouve à suivre les enseignements de Nōshin, donc le bronze, donc qui suit la voie religieuse, si je puis dire, et plus philosophique, parce que Nōshin n'a plus grand chose de religieux à des moments. Et il apprend de ce moment avec son maître. Et en fait. Il y a un truc que je peux vous spoil parce qu'on le comprend assez vite si on est un peu intuitif sur...
Sinon, bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes.
Sinon, bouchez-vous les oreilles, exactement. C'est que, en fait, c'est lui qui raconte l'histoire. En fait, c'est lui qui écrit.
Le moine, c'est le narrateur, le petit moine.
C'est le moine et le narrateur, une fois vieux. Et l'œuvre est son bouquin. Et c'est pour ça qu'il l'a intitulé Hoko. Parce qu'en fait, du point de vue du moine, il a intitulé son œuvre en parlant de la personne dont il a envie de raconter la vie.
Ah, c'est très cool ça. J'aime bien cette interprétation. Ça, c'est, tu vois, ce principe se fait quand c'est des fois t'as des séries où t'as un narrateur qui parle et tu sauras à la fin que c'est le jeune garçon qui était dans qui parlait tout le long. Ça, c'est un truc classique. Et attention, invasion du chat.
Oui,
vous avez de la chance, c'est Twitch. C'est lui, Hoko. Et petite question, juste, parce qu'on a vu l'épaisseur, mais juste pour ceux qui écoutent, c'est combien de pages ça peut permettre de se rendre compte de l'épaisseur?
Ah bah alors là, je vais effectivement vous le dire, je ne sais pas, tiens, de tête.
Et le prix aussi.
Sachant qu'à la fin, si ça peut vous intéresser, il y a beaucoup de pages avec de l'explication, beaucoup autour de l'œuvre. Il y a énormément de choses, ce qui revient aussi sur le folklore japonais. C'est très très bien fait, hein. C'est écrit par Jean-Pierre Fueri et c'est super. Et donc y a-t-il des numéros de pages seulement? Du coup, sinon je peux pas vous le dire. Ah, il y a 567 pages.
Ah, d'accord.
567.
Ah ouais, vénère quoi. Il y a de quoi faire.
Voilà. Donc et l'œuvre intégrale, je vais pas vous montrer du coup pour pas vous spoil, mais elle se termine juste sur une lettre. C'est la dernière planche de la BD qui révèle elle encore les petits ultimes secrets. Et c'est vraiment, vraiment exceptionnel.
Et je cherche le prix.
Superbe. Et donc, le prix
du bouquin entier, parce qu'après, il s'achète individuellement.
Voilà, tu peux retrouver les tomes en individuel.
Je vois une quinzaine d'euros pour les tomes, en gros, des fois les tomes individuels, 15-20 euros.
Oui, ça varie un petit peu, en fait. À l'époque, je pense que c'était 17,80 le prix d'origine, ou 22,50, je ne sais plus sur lequel il était indexé.
Alors, je regarde Amazon.
Non, ça devait être 22,50.
Allez en librairie. Mais sinon, je vous dis sur Amazon, globalement, là, je vois intégrale tome 1 à 2, donc le 1 et 2 à 22,50, par exemple.
Voilà. C'est, normalement, c'est ça, hein, c'est 22,50.
Et du coup, ton gros livre qui a tout.
Et alors, par contre, le gros qui a tout, je ne sais plus à combien il était. On
3500.
Était... Non, on n'était pas si cher que ça, en fait. C'est ça qui était assez ouf, c'est qu'on était à 85 ou 88 euros.
Est-ce que c'est si combien? C'est 10, c'est ça? Non, c'est...
C'est 10, oui, tout à fait.
C'est 10, ouais, c'est ça.
C'est 10, et on était légèrement en dessous de la centaine d'euros. Donc, c'était pour une très, très belle édition. On était vraiment sur un super tarif.
Donc, ouais, voilà.
Il faut savoir
balles,
que je crois que l'intégrale que je vous présente, moi, en version physique, n'est plus exactement la même depuis. Du coup, et celle que j'ai, moi, l'édition est arrêtée. Et maintenant, ça va être une réédition de l'intégrale. Donc, elle sera légèrement différente de celle que je vous ai
présentée. Tu as quelque chose d'exceptionnel.
Je vous ai présenté là.
Mais, en mais cas, moi, voilà.
Il y a une dernière image.
C'est fou.
Et il y a effectivement une dernière image bonus, du coup. Dans l'actualité,
en cherchant, oui.
Dans l'actualité très très proche et pas proche à la fois de Oko, c'est qu'il y a eu des adaptations jeux de plateau de Oko, plus ou moins réussies pour certaines, mais il y a eu notamment une adaptation qui s'appelle Oko Chronicles, qui est sortie. Alors, la date de sortie est un peu difficile puisque ça vient d'une campagne Kickstarter et du coup on peut y jouer depuis 2019, elle est annoncée depuis 2018, mais officiellement les boîtes commencent à se recevoir depuis 2021.
Ah ouais, donc c'est vraiment c'est frais, quoi.
Ouais, et pour certains, ils l'ont même reçu en 2022 avec toutes les extensions, je pense.
D'accord.
Donc c'est très très frais, et donc c'est ça reprend un petit peu ça reprend complètement l'histoire de Oko. On va être dans la peau de Oko et ses compagnons qui vont devoir tout simplement auxir des démons. Donc ça se passe au cœur du Palais des Brumes pour la version de base. Après, ils l'ont fait en cycle, en 5 cycles, comme la BD, et qui sont autant d'extensions, mais qui sont aussi jouables indépendamment.
Là, ça, du je coup, j'ai vu, je suis sur je Esprit Jeu, parce qu'eux, ils l'ont, mais je le vois à 72 balles.
Exactement, c'est 72 euros au Co-Chronicles, le cycle de l'eau. Évidemment, si vous l'aviez pris en campagne, vous aviez des tarifs préférentiels, bien sûr.
2 okay. à 5 joueurs, environ 2 heures à partir de 13 ans. Bon, je donne les infos données par le site.
Environ 2 heures, non. Environ 3 heures, 3h30.
Ah oui.
Ou alors, ils mettent environ, ou alors c'est à partir de...
Voilà. Oui, mais c'est très sous-estimé, comme à chaque fois avec les éditions. Et... Donc, c'est un jeu coopératif où tous les joueurs vont ensemble prendre les...
Voilà, ce que j'allais dire, ça se joue voilà. Comment, en fait
Eh bien, chacun va incarner un des membres du groupe de Oko, ou Oko lui-même, et on va aller explorer du coup une carte qui représente un lieu, et petit à petit trouver des indices, comprendre la situation, comprendre quel est le démon, jusqu'au moment où on va pouvoir le détruire ou le bannir. Et là, dans ces cas-là, on gagne. Par contre, s'il s'échappe, eh bien, on perd, ou s'il arrive à ses fins, eh bien, on perd.
Voilà. C'est assez complet. Là, je vois là, sur le site où je suis, il y a l'arrière et ça te dit ce que ça contient. Oh, c'est la boîte, elle est remplie.
Pléthore de matériel,
des
cartes,
des pions, des trucs.
Et le prix laisse penser ça, hein, parce que c'est quand même vraiment cher. Hein.
Non, 72 euros pour un jeu de plateau,
non,
on est bien.
Parce que t'as des trucs où t'as deux fois moins qui arrivent à 100 euros ou t'as deux fois moins de contenu. Hein.
Bon,
des jeux comme ça, en général, ça approche plus les 100 euros.
Bon, en vrai... Il a une facette semi-coopérative puisque du coup il y a un joueur qui peut être plus récompensé que les autres. Ah. Et en vrai aussi, je vais faire quand même mon petit mea culpa de fin de chronique, le jeu n'est pas très bon. On va pas se cacher, il a plein de défauts mécaniques. En fait, il est beau, il plonge dans l'univers d'Oko hyper bien. Le jeu est hyper renseigné et très très détaillé sur l'univers d'Oko. Donc du coup, ça fait plaisir quand on est fan de l'univers de jouer dedans
et
de s'immerger
dedans. Mais c'est pas si bien que ça, quoi.
Mais en vrai, les mécaniques sont un peu lourdes. Il y a des trucs qui sont de l'aléatoire qui met un peu un tacle au mauvais moment. Tout n'est pas fameux. Tout n'est pas fameux. Mais si vous voulez vous immerger dans l'univers parce que vous avez aimé la BD, c'est bien.
Ça me fait penser aux jeux... Il y en a plein, il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Des jeux tirés d'animé où si t'es pas fan de l'animé, ça reste un jeu, soit un jeu de combat de merde, soit... Si t'es fan de l'animé, que ce soit Dragon Ball, Naruto, One Piece ou tout et tout, enfin, je donne les plus évidents et les mieux. Ou Olivier Tom pour un récent. Si t'es très fan de... Tu t'y retrouves, mais si tu t'y intéresses pas, ça reste un jeu moyen, quoi. Et là, je pense que c'est pareil, je veux dire...
T'es en train de me dire qu'il y a un jeu de plateau Capitaine Tsubasa?
Ah non, mais là, je parlais aux jeux vidéo.
Je pense qu'il y a des
trucs
de plateau,
qui sont faits pour les fans.
Tsubasa.
Tu vois, Oko, pour quelqu'un qui connaît l'histoire, il doit quand même kiffer quand même parce qu'il retrouve des choses. Mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'œuvre va peut-être passer au-dessus et va se dire, c'est bof, quoi.
Ça, je pense que c'est sûr. Je vois pas quelqu'un qui a pas lu, disons, aucune des BD et qui connaît pas l'univers.
Ça fait offrir, tu sais, tu es fan de jeux de société, les gens le savent. Et, ah tiens, moi j'ai Oko, je kiffe parce que j'ai lu l'œuvre et je trouve ça, je m'amuse quand même. Bah tiens, je vais l'offrir. Mais sauf que tu l'as peut-être aimé parce que t'as aimé l'œuvre. Donc il y a ce côté aussi à faire attention quand c'est tiré de quelque chose. C'est le piège, je pense, qu'en tant que créateur, c'est que tu te dis que c'est tout fait, mais finalement c'est compliqué à faire une transposition jouable complète.
Oui, tout à fait. C'est très dur, et puis bon, parfois c'est...
Après, c'est dans les détails, parce que ce que tu nous as expliqué comme système de jeu, la coop pour aller bannir
globalement,
un boss,
c'est vachement bien fait.
Je trouve ça vachement cool. Après,
c'est dans le détail que c'est pas ultra fluide, mais bon. Si tu peux juste terminer sur l'image 4, du coup, pour V2. Vous résumer Oko, en une fois, parce que je pense que c'est une image qui le résume bien.
Hop, j'y suis,
celle-là, ouais.
Oui.
La 4, ouais, voilà, celle-là. Celle donc avec le géant à l'arrière de la femme. Voilà, pour moi, cette image, elle résume très bien Oko. C'est-à-dire que Oko, c'est un mélange de Japon, féodal, traditionnel, de folklore, de fantasy, de magie, de limite SF, tellement la magie se mélange avec des constructions un peu mécaniques. Le tout dans un univers résolument adulte, avec des personnages très ambigus, à l'image de la femme qui est sur la photo, qui est sur le dessin. Est servi par une mise en couleur et un trait de dessin fabuleux aux inspirations multiples.
Donc, Hub y a mis tout ce qu'il aimait. Il a trouvé la façon d'en faire une cohérence, alors que c'est finalement il y a beaucoup de choses différentes, quoi.
Exactement. C'est ça d'ailleurs qui fascine dans l'œuvre, c'est que il va mélanger magie fantastique, culture féodale japonaise, réaliste en plus, très bien renseigné. Avec une intelligence et une cohérence incroyables. On sent l'empreinte du JDR sur la personne.
Eh bien, écoute, comme d'habitude,
on a envie d'acheter ce soir. Quand on parle BD avec toi, enfin BD ou œuvre littéraire avec toi, Dals, on a envie d'acheter. Quand on a Charlie qui nous parle de jeux de société, et là, tu nous en as un peu parlé aussi, mais on a envie d'acheter. J'en ai marre de gens qui sont passionnés par leur sujet, qui nous font dépenser de l'argent dans ce monde capitaliste. J'en ai marre. Rends l'antenne. Rien ne va. Mais
et jusque-là, le pigeon de service, c'est moi. Hein, parce que j'ai acheté les jeux et j'ai acheté Goldorak.
Ah oui,
dont tu avais Goldorak. Parlé.
Tatouage, pour l'instant, je n'ai jamais rien acheté.
Il est bon, Goldorak.
Il est très bon. Ouais.
Donc, pour l'instant, moi, j'achète rien. Donc, finalement, je tiens. je ne sors pas de ma pièce. J'ai coupé ma carte bleue. Et finalement, ça fonctionne très bien. Non, mais la période de Noël précédemment passée a bien suffi à éviter d'acheter d'autres choses. Parce que, bon, une fois les cadeaux achetés, il n'y a plus d'argent. Globalement, et une fois que Dals, lui, il aura acheté sa cuisine et tout ce qui va avec, finalement, il n'y aura plus d'argent non plus. Ah non. Donc, il ne pourra plus acheter non plus.
Je fabriquais les jeux en carton.
C'est ça, tu nous présenteras, tu feras les petits dessins toi-même. Tu diras, regardez, voilà ce que j'ai. En tout cas, Oko, si vous voulez retrouver de votre côté les amis, encore merci Dals de nous avoir fait voyager, hein, puisque même si moi c'est pas trop mon style de dessin, mais ça m'a donné envie, c'est-à-dire que si quelqu'un me dit tiens, je te le prête ou je le vois, je vais avoir envie de le lire, clairement, c'est pas des trucs où je dis oh non, bon, ça m'intéresse pas vraiment, j'ai envie de feuilleter pour voir comment ça me transporte. Puisque tu l'as, même si tu n'es pas sponsor, tu l'as très bien vendu.